7h21 à Paris, la revue de presse des journaux français avec Frédéric Couteau. À la une, Frédéric, on en parlait tout à l'heure, les 50 ans de Charlie Hebdo.
1970-2020, l'hebdomadaire satirique et irrévérencieux a déjà 50 ans, en effet. Charlie Hebdo qui est né rappelle le journal d'une censure d'un autre journal, à savoir l'hebdo Harakiri, interdit en 1970 par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Raymond Marcellin, au nom de la protection de la jeunesse, l'affront avoir ironisé sur la mort du général de Gaulle avec le fameux titre « Balle tragique à Colombey, un mort ». 36 ans plus tard, en 2006, Charlie Hebdo de nouveau affirmait son engagement pour la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté de conscience, le droit au blasphème, en publiant les caricatures de Mahomet du quotidien danois Jyllands-Posten. Finalement, pointe l'hebdomadaire, au fil des ans, Charlie a survécu à tout, aux leçons de bienséance, au procès en avalanche, à l'incendie de ses locaux, au massacre d'irremplaçables compagnons de route, aux menaces qui s'accumulent. Et il a bien l'intention, conclut-il, d'en reprendre pour au moins 50 ans.
Et Libération rend hommage ce jeudi à Charlie en invitant dans ses colonnes ses dessinateurs et ses journalistes.
Ils sont venus, ils sont tous là, s'exclame Libération. Ceux qui sont restés en vie, comme ceux arrivés à Charlie après l'attentat et qui sont constamment menacés, traqués, surveillés ou qui sont isolés de tout. Pour pouvoir dessiner et écrire. Ils ont participé à notre conférence de rédaction, lancé des idées, posé des questions, puis se sont mis à écrire et à dessiner dans nos pages. Ils sont ici chez eux, pointe encore le journal, puisque Libération les avait hébergés le lendemain de l'attaque du 7 janvier 2015, puisque c'est chez nous qu'ils avaient réalisé leur numéro des survivants.
Interrogé par Libération, le directeur de Charlie Hebdo, Rhys, revendique le droit de s'en prendre aux puissants comme aux faibles quand ils abusent de leur pouvoir politique. Ou religieux.
Oui, pour lui, qui défend la possibilité de se moquer de toute forme de pouvoir, la ligne du journal est mieux comprise et mieux soutenue qu'il y a 5 ans. À la question « Quelle serait votre définition de Charlie aujourd'hui ?», Rhys répond « Depuis 50 ans, le fil rouge du journal est de démystifier les choses de façon à ce que le citoyen soit plus lucide sur le monde qui l'entoure, à ce qu'il ne se fasse pas baiser par les modes, par les tendances, par les analyses superficielles, par ce dans quoi on veut l'enfermer, à le rendre plus libre possible par lui-même. »
À la une également ce jeudi, encore beaucoup de réactions après le débat Trump-Biden, c'était hier aux États-Unis.
Et on reste avec Libération qui constate que les candidats se sont affrontés dans un face-à-face ahurissant de violence, un condensé de brutalité en prime time entre les mensonges et les appels du pied à l'extrême droite du président républicain et la perte de sang-froid du démocrate excédé de se faire couper la parole. Mais au-delà des invectives et du débat brouillon, ce que l'on retiendra surtout de ce débat, pointe le Monde, c'est l'avertissement lancé à la fin par Donald Trump sur le scrutin du 3 novembre. Cela ne va pas bien se terminer. À nouveau, Donald Trump a semé le doute sur la validité de l'élection présidentielle et des votes par correspondance, attendus nombreux en raison de la pandémie de Covid-19. À nouveau, il a refusé de s'engager à ne pas revendiquer la victoire et a appelé ses partisans au calme si le résultat n'était pas clairement établi à l'issue du vote. Joe Biden, lui, s'est engagé à respecter le verdict, quel qu'il soit.
En effet, renchérissent les dernières nouvelles d'Alsace. Sensiller, le champion des Républicains, a appelé ses partisans à intervenir dans les bureaux de vote.
Et oui, Donald Trump prévoit en outre de contester les résultats du scrutin, qualifiés d'avance de frauduleux. Et pour couronner l'ensemble, il annonce que son sort relèvera de la seule Cour suprême, avec ce présupposé qu'elle serait à sa botte. La violence perçue des échanges personnels entre Trump et Biden en cache une autre, plus profonde, qui n'a besoin ni d'invectives ni de calomnies pour effrayer. Trump a franchi la ligne rouge du respect des institutions de son pays.
Et puis dans la presse encore, Covid-19, le gouvernement à l'heure des choix difficiles, c'est la une du Figaro.
Après Aix, après Marseille, la semaine dernière, d'autres grandes villes comme Paris, Lyon, Lille ou encore Grenoble vont-elles basculer à leur tour en zone d'alerte maximale pour le Covid-19 ? La question est sur toutes les lèvres, dans l'attente d'une intervention du ministre de la Santé qui doit s'exprimer ce jeudi. Et d'ores et déjà, Roland Aigui, président confédéral de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, prévient dans les colonnes du Parisien. Notre secteur ne supportera pas une nouvelle fermeture, affirme-t-il. Avant la fin de l'année, ce sont déjà 30% des bars, hôtels, restaurants, discothèques et traiteurs de Paris et d'Île-de-France qui risquent de mettre la clé sous la porte et 15% au niveau national. Cela représente 30 000 entreprises et 220 000 emplois, sans compter les emplois induits.
Merci Frédéric Couteau. Revue de presse à retrouver en ligne sur RFI.fr.